l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul au jour le jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Les hôpitaux réservés aux seniors sont réticents à recevoir des patients qui ont été infectés par le Covid-19 malgré leurs résultats rendus négatifs. Ces derniers sont perdus sans aucun établissement qui leur tend la main pour s'en occuper, sauf le centre médical de réhabilitation de Ulsan, un ancien foyer de contamination. Nous ouvrons notre édition du jour avec ce sujet, restez branchés, à tout de suite. Un certain Kim, âgé de 51 ans, se démène pour trouver un centre médical pour son beau-père. Il a passé des coups de fil à plus de 10 services hospitaliers pour personnes âgées, mais aucun d'entre eux ne lui a donné le feu vert avant qu'il ne tente sa chance avec le Ulsan Medical Center dans la province de Gyeonggi, la région qui entoure la capitale. Kim dit qu'il n'a vu le temps passer depuis que son beau-père a été testé positif au Covid-19. Il a été hospitalisé dans un centre médical qui a connu une contamination en groupe dans l'arrondissement de Guro et il s'est fait traiter mise en quarantaine dans le centre médical de Séoul. Heureusement, il a surmonté un grand obstacle mais il s'est vite retrouvé dans une impasse. Aucun établissement de soins médicaux pour les personnes âgées n'a voulu l'accueillir. Kim décrit ce moment tellement douloureux parce que son beau-père avait besoin d'un traitement respiratoire et qu'il était urgent pour lui de se faire soigner dans un hôpital où il y a des lits équipés de respirateurs. Alors que tous les autres établissements contactés ont refusé d'accepter cet ancien patient infecté au coronavirus, le centre médical de Ulsan a donné une réponse positive à bras ouverts. À mesure que la crise sanitaire perdure sur le long terme, des établissements pour les seniors sont gravement attaqués par des contaminations de masse. C'est pour cette raison que ceux-ci ont du mal à agréer les demandes d'anciens contaminés, d'autant plus que des résidents et leurs familles s'y opposent par crainte d'une éventuelle propagation du virus. Le centre médical d'Ulsan, qui réceptionne volontairement des patients qui ont un antécédent, a été lui aussi un foyer de contamination en octobre dernier. Le 24 octobre, le premier cas a été détecté avant de se propager à 49 personnes pendant un mois. Le responsable de la consultation médicale a expliqué que cette expérience rude avait servi de leçon, que certains doivent avoir une responsabilité et une vocation pour ces patients délaissés et discriminés par d'autres centres. Les amateurs de pêche se demandent s'il est vraiment mal d'aller pêcher en gardant une distance à l'ère du coronavirus qui nous oblige à rester à la maison. Le nombre de pêcheurs en Corée du Sud est estimé à plus de 10 millions, dépassant celle des alpinistes. Certes, il y a de plus en plus de Sud-Coréens qui pratiquent la pêche, mais le nombre des endroits où ils peuvent passer leur temps de loisir se rétrécit d'année en année. Récemment, la ville de Pyeongtaek a envoyé une lettre officiel à 3 groupes de pêcheurs locaux, disant « afin d'améliorer le côté esthétique et d'entretenir une rivière respectueuse de la nature, nous désignons les rivières de Pyeongtaek, Jinhui et Ansan comme une zone interdite de pêche. » Selon la proclamation de la municipalité, toutes les berges des rivières Jinhui-chan et Ansan-chan, à savoir 48 km, sont incluses dans la zone d'interdiction aux activités concernées. Les pêcheurs, eux, sont sous le choc suite à l'annonce des autorités. Certains l'interprètent comme un signal qui annonce prochainement l'interdiction de l'intégralité du lac Pyeongtaek. Celui-ci est un lac artificiel créé lors de la construction de la digue de la baie de Hasan et a non seulement fourni une eau agricole abondante en volume, mais aussi a été plébiscité par de nombreux pêcheurs. Ils se défendent contre cette nouvelle mesure en soulignant un risque d'afflux vers d'autres zones de pêche, ce qui générera une pollution environnementale. À ce propos, un représentant de la mairie a précisé qu'il s'agissait seulement des deux zones indiquées et il a critiqué la réaction intransigeante des associations des pêcheurs qui ne savent que protester plutôt que de trouver un terrain d'entente. Cette tension entre les autorités et les associations ne date pas hier. L'année dernière, lorsque le district de Changsan dans la province de Jeolla du Sud a regroupé les alentours du lac local dans une complexe touristique, les pêcheurs non seulement de la région mais aussi de la région métropolitaine de Séoul ont contesté et le projet a été repoussé. Le représentant d'une association civique a mis en cause la position des autorités en prétendant que la pêche est une des activités exercées en plein air à l'abri du risque de propagation du virus et qui sert d'un des rares moyens pour les citoyens de se relaxer en toute sécurité. Restaurant de ragoût de kimchi qui a ouvert pendant 40 ans ou un restaurant qui a été enregistré au guide Michelin n'a pas pu résister au coup dur de la crise sanitaire que toute la planète traverse actuellement. Un restaurant situé en plein cœur de Séoul qui a alléché ses clients avec du kimchi tigae, le bouillon de kimchi et du samgyeopsal, du barbecue de poitrine du porc, annonçait sa fermeture définitive le mois dernier. Sur la porte d'entrée, il ne reste qu'un message d'adieu disant « Merci de nous avoir rendu visite pendant 40 ans. Nous fermons notre restaurant en raison du coronavirus. Nous vous souhaitons à tous une bonne santé. » Celui-ci n'était pas un grand restaurant, mais il était passé plusieurs fois dans des émissions culinaires ou dans des journaux papiers. Vu son emplacement, sa principale clientèle était des salariés, mais la pratique du télétravail installée due au Covid-19 a conduit à la chute de son chiffre d'affaires. L'impact de la pandémie sur notre économie se concrétise avec la fermeture des restaurants connus, des spots présentés dans le fameux guide Michelin ou des restaurants qui ont une longue histoire ne font pas exception des victimes de la répercussion de la crise sanitaire. Un bar situé dans le quartier de Chongno a annoncé qu'il baisserait ses volets définitivement le 7 février. Il s'agit d'un pub listé dans les Michelin Plates. L'intérieur a été rénové tout en profitant de l'extérieur de Hanok, une maison traditionnelle coréenne. Les ingrédients coréens sont mis en assiette à l'européenne et à la méditerranée. Un certain Kong, 28 ans, qui se présente comme un client fidèle, déplore la mauvaise nouvelle. Selon lui, il était impossible d'y entrer sans réservation. Dans le cas du quartier Samcheong, visité surtout par des touristes étrangers, les commerçants sont à bout de souffle. Ils sont peu fréquentés, mais ils doivent toujours payer plus de 2 millions de won de loyer, environ 1500 euros par mois. Certains restaurants célèbres, avec leur chef étoilé mis en avant, sont également en voie de déclin, frappés par la crise actuelle. Edward Guan, le chef d'un restaurant français avec une touche coréenne, qui se trouve dans le quartier de Cheongdam à Séoul, n'a pas dissimulé ses difficultés financières dues au Covid-19. Il fermera son restaurant qui date de 10 ans et qui s'est classé chaque année dans la liste, le guide gastronomique français qui sélectionne 1000 restaurants dans le monde entier. Kwan s'est reconverti maintenant en youtubeur. Il présente sur sa chaîne YouTube ses recettes idéales pour les étudiants qui habitent seuls.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Kim Hong-ju ce lundi 1er février. La première collecte de sève d'acer mono ou érable d'Asie sur l'île de Kodje annonce l'arrivée du printemps. On est en plein hiver en Corée, mais la deuxième île la plus grande après l'île de Jeju a commencé à extraire de la sève de cet arbre appelé Goroje en coréen. L'île de Kodje est située au sud de la péninsule coréenne, un climat maritime, et la région où le prélèvement de ce produit débute le plus tôt Daegu, à savoir dans les montagnes de Noja, Kara et Pubyang, entre milieu de janvier et le début de mars. Les agriculteurs qui ont obtenu l'autorisation du service des forêts et de la municipalité collectent chaque année de l'ordre de 200 000 litres de sève. Celle-ci a un goût légèrement sucré et riche en potassium, calcium et magnésium, des éléments bénéfiques pour les os, ce qui lui a valu le surnom de Kulisu, l'eau bonne pour les os. La sève de Kurose, originaire de Kode, est hautement appréciée comme l'une des 9 spécialités régionales de qualité. Il n'est pourtant pas une mince affaire d'en obtenir. Kim Hyang-gun, le président de l'association de Kurose, a expliqué que comme les arbres sont sensibles à la température, il faut attendre les jours où l'écart de température entre le jour et la nuit est supérieur à 10 degrés, à savoir moins 3 à moins 5 degrés la nuit et 5 à 7 degrés la journée. Le travail d'extraction demande également beaucoup de main-d'œuvre. C'est un travail manuel. Les professionnels gravissent les montagnes et percent un trou dans l'arbre, puis accrochent un sac en plastique ou branchent un tuyau pour recueillir enfin la sève dans un réservoir. L'expert Kim a ajouté qu'afin de protéger les arbres et de maintenir la qualité du produit, il n'en extrait pas des arbres dont le diamètre du tronc est inférieur à 15 cm à hauteur de poitrine. Monsieur Yoo Hyo-jong, âgé de 62 ans, a décidé de devenir mannequin il y a 3 ans lorsqu'il prévoyait sa retraite après 35 ans de carrière en tant que fonctionnaire. Il a fait part de sa résolution à son entourage et à ses collègues et il est tout de suite passé à l'action. Il s'est inscrit dans une académie de mannequins en 2018 lorsque le senior model était une tendance. Yoo, qui s'est entraîné dans cette institut accentue sur la posture en disant que la posture est la clé pour avoir de l'allure, surtout quand vous avez un certain âge. Au bout d'un an, il a réussi à remporter la première place parmi 1500 candidats dans un concours de Senior Fashion Star organisé par une chaîne de grands magasins. En finale, il a maintenu sa première place dans le vote de popularité des citoyens du début à la fin. Monsieur Yoo a confié au journal Hangok Ilbo qui ne savait pas quoi faire à l'approche de sa retraite, il avait pourtant ses propres critères pour sa deuxième vie. Il faut trouver une activité amusante et décontractée. Yoo, ancien porte-parole d'un ministère, a passé la plupart du temps dans un bureau pour écrire des textes de discours, préparer des interviews avec la presse et collecter des articles tous les jours à 7h du matin. Deuxièmement, il voulait trouver quelque chose qui aide à garder l'estime de soi, car selon lui, quitter son travail apporte en quelque sorte une frustration ou un sentiment de perte. S'habiller en smoking de classe comme une célébrité et se mettre au milieu de la scène en attirant l'attention du public était une nouvelle page parfaite qu'il pouvait tourner. On peut le voir dans des publicités de télé depuis 2019. Il joue un père ou parfois le grand-père d'un personnage de la vingtaine ou de la trentaine. Il a participé déjà à une cinquantaine de publicité. Yoo a aussi intégré le milieu du théâtre et du cinéma. Il est devenu un acteur qui a interprété différents rôles du simple figurant jusqu'à un personnage principal dans une vingtaine de longs et courts métrages. Il n'a pas oublié de donner des conseils aux futurs retraités en souhaitant que davantage de monde parte à la recherche de quelque chose qui leur tient vraiment à cœur et qui leur permet d'augmenter leur estime de soi. Une exposition d'art médiatique Bunker de Lumière, qui est en cours sur l'île de Jeju, reviendra pour la prochaine édition avec Monet, Renoir et Chagall. L'exposition immersive projetant des œuvres sur les murs, un type de spectacle adopté de la France, notamment celui des carrières de lumière, continuera d'envoûter des visiteurs sur le thème de Van Gogh jusqu'au 28 février. L'ancien bunker de communication dans dans le district de Songsan, converti en centre d'art il y a 2 ans, accueille déjà plus d'1 million de visiteurs en devenant un site culturel à ne pas manquer sur l'île méridionale. Le prochain projet de bunker de lumière sera composé d'environ 500 pièces de 3 peintres, à savoir Monet, Renoir et Chagall, qui ont mené leurs activités au bord de la Méditerranée. Claude Monet, un impressionniste de premier plan, a rempli ses toiles avec la conviction que la lumière est la couleur. Auguste Renoir montre une intersection audacieuse de contrastes. Et Marc Chagall est marqué par des couleurs intenses et des imaginations. L'exposition vous invitera à tomber en extase pendant 40 ans à la fin du mois d'avril.
Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. Notre première destination est la Chine, où le marché des produits de luxe s'est redressé grâce à l'affaiblissement de la crise sanitaire du Covid-19. Les consommateurs chinois ont dépensé l'an dernier à l'intérieur du pays 346 milliards de yuan, l'équivalent de 44 milliards d'euros, pour s'offrir des produits haut de gamme, soit en bond de 48% sur un an. C'est ce qu'a rapporté le journal South China Morning Post en citant un rapport publié par le cabinet de conseil Bain & Company et la plateforme de vente en ligne Temu. Cette embellie s'explique par la reprise économique dans l'empire du milieu suite à la stabilisation de la propagation du coronavirus qui a atteint un pic au premier trimestre 2020. Les habitants stressés du confinement auraient pris leur revanche en faisant les magasins plus souvent, une tendance appelée « dépenses de vengeance ». L'essor des ventes de marques de haute couture a été observé non seulement dans les 4 plus grandes villes du pays comme Pékin et Shanghai, mais également chez des tailles moins importantes comme Chengdu. Nous nous dirigeons maintenant au Japon, où les employés pourront bientôt se faire verser leur salaire via un service de paiement mobile. D'après le Nihon Keizai Shimbun, le gouvernement japonais prévoit d'aménager fin mars la loi concernée qui stipule que les entreprises doivent rémunérer leur personnel en liquide ou par virement bancaire. Le versement du revenu pourra donc être effectué à l'aide d'applications pour smartphone dès que LINE Pay, géré par une filiale de Naver, la première plateforme en ligne sud-coréenne. Ce dispositif fait partie de l'initiative de l'archipel sur la transition vers une société sans cash. En septembre dernier, le nombre de consommateurs japonais qui ont utilisé un code QR pour régler leur achat au moins une fois par mois a décuplé en seulement 9 mois avec plus de 30 millions d'individus. Déplaçons-nous aux Philippines. La compagnie aérienne philippine Cebu Pacific Air propose une assurance contre l'épidémie de nouveau coronavirus appelée COVID Protect. Les passagers peuvent s'inscrire à ces produits d'assurance de la compagnie Chubb lors de la réservation des vols domestiques et internationaux avec des frais minimums de 270 pesos philippins, soit 4,6 euros. En cas de contamination, les assurés peuvent être couverts jusqu'à 1 million de pesos philippins ou environ 17 200 euros. En Indonésie, 8 personnes ont récemment été interpellées pour avoir trafiqué des faux certificats de tests négatifs au Covid-19. À en croire l'agence de presse Antara, ils ont fourni des attestations falsifiées de tests antigéniques contre 700 000 à 900 000 roupies indonésiennes, soit 41 à 53 euros. À la mi-décembre 2020, les autorités sanitaires d'Indonésie ont rendu obligatoire la présentation d'un résultat de dépistage pour les voyageurs qui se rendent sur l'île de Java, en avion ou en train, à l'approche du jour de l'an. Vu que les frais du test sont moins élevés que le document contrefait, les acheteurs de ce dernier l'auraient demandé dans le but de rentrer dans leur ville natale malgré leur infection. Les centres de test de l'aéroport de Jakarta Soekarno-Hatta prévoient de publier les données du test sur une application sanitaire en vue de lutter contre ces opérations frauduleuses. Notre voyage de cette semaine prend fin au Vietnam, où les bières qui portent le nom d'île dont la souveraineté est disputée par la Chine font en tabac. Il s'agit de Huangsa Special et Duangsa Special, les appellations vietnamiennes des îles Paracel et Spratly. La brasserie artisanale Seafarer Premium Beer les ont commercialisées pour insuffler le patriotisme à la population vietnamienne et soutenir les droits du Vietnam sur ces archipels. Leurs commandes ont explosé pour atteindre 476 000 litres, une quantité difficile à fournir avant le nouvel an lunaire. Ces produits ont également attiré l'attention des Vietnamiens résidant à l'étranger et l'entreprise négocie leur exportation avec des industriels aux États-Unis, au Japon et en France.
Voilà, ainsi s'achève votre Séoul au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Kim Mong-ju au micro avec Oh Hae-young à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.